Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Salut tout le monde.
Salut.
On vous a quitté la semaine passée sur un cliffhanger.
Mais de tonnerre.
Bah oui, alors vraiment, épisode Netflix, quoi, tu vois. Ouais. Voulez-vous continuer ou pas ? Oui, forcément.
Oui.
Mais bon, bien sûr, Maud est géniale, puisque c'est ton métier, hein, de faire tourner des pages. That's what she do, you know.
Yeah, no.
Et en fait, dans cet épisode, effectivement, on va parler de travailler en équipe, et t'as ajouté, et donc, entre guillemets, lâcher le bébé et savoir déléguer.
Ouais.
J'ai trouvé ça intéressant que t'aies rajouté ça. Lâcher le bébé.
C'est
très marrant. Et effectivement, donc dans la semaine passée, tu étais en train de parler de Danny Boone. On vous invite à réécouter hein, cette fin où tu disais, tu avais croisé Danny Boone dans une soirée et tu te disais, mais ouais, Danny Boone, lui, au moins, il a une équipe et il est entouré de gens, etc. Alors, tu ne sais pas forcément, mais c'est comme ça que tu le projettes.
Exactement.
Là où toi, tu as un peu la sensation d'être toute seule.
En fait, j'ai la sensation de construire mon équipe. Peut-être le moment où le prof de sport te fait choisir des gens et je dois choisir qui vient dans mon équipe.
Qui vient en dernier aussi.
Qui vient en premier. Et que, en tout cas, je disais que je suis à un stade de ma carrière et c'est la différence entre moi, bébé auteur qui a écrit qu'un seul livre, et Danny Boone qui fait carrière depuis des années. C'est que j'imagine qu'avec les années, tu te construis une équipe. Et là, je vois encore, bah, j'ai des éditrices auxquelles je tiens beaucoup et qui ça fonctionne très bien. Donc, j'ai quand même des pôles, tu vois, de sûreté.
C'est énorme.
Ce qui est déjà énorme. Mais la question de comment je complète ça de feedback extérieur, est-ce que je me fais accompagner par un agent ? Oui, non. Quelle place je donne à mes projets annexes ? À quoi je dis oui, à quoi je dis non ? Enfin, comment je me fais bien entourer et conseiller ? Mais là, on anticipe un peu parce qu'on en est à la phase post-publication. Voilà, c'est une question qui m'interroge beaucoup et qui m'interroge de comment tu crées ta bonne équipe.
Mais on va quand même parler de la phase post-publication dans cet épisode, non ?
Oui, bah en fait, là, c'est, si on reprenait la chronologie, c'était le moment où je trouve une maison d'édition pour publier mon premier livre et où ben, un projet qui était personnel, ça faisait trois mois. Si seulement. Ça faisait 3 ans que je travaillais seule sur mon texte, que je faisais mes retours, que je travaillais sur mon manuscrit. Et là, j'arrive dans une équipe où il y a une directrice de la maison d'édition qui choisit la couverture du livre, une directrice commerciale qui met en place une stratégie, une responsable des réseaux sociaux, des éditrices et une équipe de représentants qui va aller vendre le livre dans les librairies. Et là, t'arrives et t'es plus toi tout seul chez toi. Tu deviens le maillon important, mais un maillon d'une chaîne plus général. Et ça, c'est totalement vertigineux.
Comment tu l'as vécu, toi ? Alors, j'imagine, après 3 ans, avoir pianoté sur ton... Là, les gens le voient pas, mais t'as quand même un vieux MacBook Air qui a d'il y a 10 ans.
Littéralement, parce que je l'ai acheté en 2013. Donc, ça y est, joyeux anniversaire.
T'as écrit tout ton bouquin là-dessus. T'es en train d'écrire le deuxième là-dessus. Donc, j'imagine vraiment l'aspect... Et peut-être on peut en parler maintenant. Tu disais, moi, l'un des trucs que je veux, c'est pouvoir me barrer où je veux dans... On l'a dit au micro, ça ou pas ?
Non,
je me drogue, hein, c'est ça. Non,
c'était hors micro.
Et je me suis dit, ça, il faut qu'on en parle. Mais il y avait un côté vraiment où tu veux écrire. Et l'une des activités cool dans l'écriture, c'est que, en fait, t'as juste besoin de ton ordi.
T'as besoin de rien. En fait, c'est ce que j'aime. Parce que tu me disais, mais pourquoi t'écris pas sur Google Doc ? Et je disais, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir besoin d'Internet pour écrire. Je veux avoir besoin de rien pour écrire. Il m'a dit, mais ça existe aussi hors connexion. Je suis en mode,
Google
bon,
Doc hors connexion.
Fine. Mais j'aime bien dans l'activité d'écriture le fait d'avoir besoin de rien, sauf d'un ordinateur. Mais en fait, techniquement, et c'est ce que je t'avais dit, si je veux mettre à la peinture, il faut quand même un atelier, il faut que j'achète des toiles, de la peinture, un endroit où le faire, où je stocke. Enfin, c'est tout quand même une orga, alors qu'écrire, franchement, il y a ce côté, je peux faire ça n'importe où, n'importe quand, et j'ai besoin de rien, et j'ai pas besoin d'investir dans quoi que ce soit.
T'as des trucs que je kiffe avec le podcast, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as juste besoin d'un enregistreur. Bon, certes, c'est un peu de matos, mais c'est beaucoup moins de matos que d'avoir des caméras, des machins, enfin bref, c'est tout un autre délire, quoi.
Et c'est pour ça aussi que j'adore le podcast, c'est que j'ai bossé pendant le podcast pendant plusieurs années, c'est que je pense qu'il y a ce côté, effectivement, t'as pas besoin d'aller convaincre 15 personnes, tu montes un film, t'as besoin d'un producteur, d'argent, tu dois lever des millions, etc. Mais là, un podcast, globalement, bon, tu investis quelques centaines d'euros dans le matériel, dans le plus grand des cas, et puis c'est à peu près tout. Oui. Et j'adore cette économie de moyens et d'avoir besoin de justement de pas trop travailler en équipe, de pas être 25. Mmh. Mais oui, mais c'est vrai. D'aller monter un film, de convaincre plein de gens, de voir emmener beaucoup de gens avec moi, moi mon truc plutôt que... Et j'adore dans l'écriture notamment ne pas avoir besoin d'attendre. Je veux dire, si là, si je veux réécrire ma deuxième partie sur laquelle je suis en train de travailler, j'ai pas besoin d'attendre l'aval, le feu vert de 15 personnes, faire petit rendez-vous, lever tant d'argent. Non, mais en fait, je l'écris et point. Et je peux aller à mon propre rythme. Rien ne me ralentit et ça, je trouve ça fou.
Ok, donc tu passes de ça...
Oui, voilà, précisément.
Cette autonomie totale, exactement. Machin, à... Ok, en fait, ton bouquin est terminé.
Ouais.
Comment ça se passe? Moi, il y a un truc qui me fascine toujours, c'est la création de la couve. Est-ce que quand tu es en train d'écrire, toi, de ton côté, tu as déjà en tête une idée de ta couverture ou de ce à quoi ça va ressembler, etc.? Non.
Pas du tout. J'y ai même pas pensé. Vraiment, j'y pense. Pas du tout.
Et ça t'intéresse pas? C'est un sujet?
Okay, enfin, ouais, ça ne m'intéresse pas, je pense. Ouais. Vu que j'y pense pas, c'est que ça m'intéresse pas. Je suis vraiment focalisée sur le texte.
Okay.
Je suis vraiment sur mon Word et je me dis, oui, le chapitre temps, il commence comme ça et en même temps, c'est un rappel de la figure du soleil qu'on retrouve à la fin du... Je me dis, le soleil se couchait là. C'est... Donc j'en suis là, tu vois.
Okay.
Mais alors la couverture, voilà, vraiment pas du tout. Et donc comment ça se fait? Bah, c'est justement le rôle de la maison d'édition de transformer ton document Word en livre. Et donc, c'est ce que j'avais noté sur nos petites notes pour cet épisode, la question c'est apprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre que toi. Parce qu'à la fin, ton éditeur peut te faire des retours sur le texte, mais c'est toujours toi qui tranches, et c'est toi qui décides, et tu restes l'auteur, le maître à bord. Pour le tout le reste, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a ta maison d'édition et sa direction qui va décider combien ton livre va coûter, combien d'exemplaires ils vont en tirer, la couverture, qui est un élément hyper important, même la quatrième de couverture. Comment tu le résumes? Comment tu le vends?
Ça, c'est pas toi qui choisis.
Non. Alors, évidemment, l'auteur a un mot à dire, c'est-à-dire qu'on m'a tout fait relire, tout validé. Et si j'avais dit, oh, je veux pas du tout cette phrase-là, il l'aurait évidemment modifiée. Mais moi, j'avais vraiment en tête, c'était pas mon métier, quoi. Enfin, j'avais pas envie de l'écrire. Et s'il m'avait dit, tu veux écrire la quatrième, j'aurais fait, ah non. Faites-le. Enfin, c'est votre métier. Moi,
c'est votre métier de vendre le livre.
Exactement.
Que moi, j'ai écrit. Quoi.
Exactement. Okay. Donc, faites, c'est vous les professionnels. Et si je vois une erreur ou quelque chose qui vraiment me chagrine ou que je pense être à un contresens, ce que je faisais en général, c'est que je disais jamais non. Je soulevais la question dans bah là, vous me dites ça. Est-ce que vous êtes sûr? Et il me disait ouais, c'est fait exprès. On y a pensé. On pense que c'est bien. Go. Par exemple. Là, en ce moment, dans Paris, il y a une campagne d'affichage pour mon livre poche.
Énorme.
Énorme campagne.
Est-ce qu'elle sera encore là cet été?
Ah oui, non, pardon pour l'auditeur qui est dans le futur.
Et si vous n'êtes pas à Paris non plus, allez voir, c'est sur ton Insta.
Oui, allez voir sur mon Instagram.
Mode Ventura, voilà. Il y a partout.
Et sur cette phrase, c'est « Et si c'était lui, le grand amour de votre été ?» Et il y a une photo de mon livre. Et donc voilà, typiquement, ça, il me l'a envoyé par mail. Et donc moi, j'ai juste dit... c'est peut-être bizarre, le grand amour de votre été. Pour moi, c'est soit l'amour de vacances, soit... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Et on... Enfin, voilà. Et on m'a répondu, ah oui, on s'était posé la question, mais en fait, on trouvait bien que ça marchait pour tel truc. Et j'ai dit, ok, super. C'est juste... Voilà, mais c'est pas mon travail. Mais si j'avais dit, ah là là, je veux vraiment pas cette phrase, elle me trigger, je veux pas, ils auraient dit, bon, ok. Mais bon, c'est pas mon métier, quoi. Et donc, ouais, il y a quand même le côté, t'y as mis tout ton cœur... Et il y a vraiment cette question de confiance, d'avoir confiance que chacun va bien faire son métier, que chacun va bien bosser et que toi, tu as fait ta partie, puis que maintenant, ça ne dépend plus de toi et que tu vas laisser les autres faire leur travail.
Il y a une question que j'adore poser. C'est, pour toi, la confiance, ça se gagne ou ça se perd?
Ça se perd.
Donc, tu donnes 100% de confiance
à
la personne d'en face.
Ouais.
Direct, ok.
En revanche, elle se perd.
Oui, mais normal.
Ouais.
Si la personne en face, elle te fait un sale coup, tu fais un peu moins confiance.
Ouais, 100%.
Mais tu sais, il y a des gens qui donnent leur confiance au fil de l'eau.
Ah non.
Qui donnent pas 100% d'entrée, qui disent « Ok, toi, je te donne 50. » Et en fait, pour monter à 100, on va vivre ensemble des histoires, tu vois. On va vivre ensemble des obstacles. Voilà.
Non. Non, non, je pense que après, j'aimais beaucoup ma maison d'édition. J'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait avec d'autres textes qu'ils avaient publiés. Et après...
C'est Iconoclaste. Hein.
L'Iconoclaste,
que
je salue.
Coucou.
Et que j'adore. Et après, la confiance, elle se regagnait un peu tous les jours. C'est plein de petites choses qui se passaient bien, qui faisaient que ça mettait en confiance, et confiance, et confiance, et confiance, et confiance. Et de fait, 2 ans plus tard, on est encore à 100%.
Ok.
Ce qui est mais pas donc, si
mais
facile.
Mais donc, t'es partie de 50 ou t'étais direct 100. À 100
okay, ah d'accord. Non, j'étais genre à fond,
okay.
mais me décevez pas. Et je okay. vous regarde avec des yeux pleins d'amour de Bambi, et vous allez me briser le cœur. Mais je vous donne mon cœur. Moi, je suis un peu comme ça. Je vous donne tout, mais après... voilà, c'est aussi... Mais tu vois, c'est aussi dur de donner 100. Parce que quand tu donnes 50, la personne se dit « bah, je vais gagner 50 parce que moi, je suis en mode « voici mon cœur !» Et je le mets sur un plateau et il y a une responsabilité qui va avec. Tu vois, je... Oui. Ça...
Bah, je dis ça parce que ça fait aussi partie des histoires que j'ai vécues, moi, chez Mademoiselle, qui était un peu forte, avec la directrice commerciale, que je salue. Peut-être elle va écouter ça, c'est très possible. Christelle, avec qui on a travaillé pendant 2 ans et demi, 3 ans, qui a monté la régie commerciale. Donc, autant te dire que c'était important. Je l'avais associée, je lui avais filé des parts de la boîte, etc., etc. Et en fait, Christelle, elle avait ce système de fonctionnement où elle m'a dit, en fait, je te file pas 100% direct. Petit à petit, on va gagner. Et je lui disais, mais comment on fait pour le gagner? Elle me dit, bah, en fait, on va vivre ensemble des épreuves. Et si jamais, en gros, tu réussis, bah, je te filerai de plus en plus. Et je lui disais, mais comment on fait pour gagner et pour réussir des épreuves si tout ce que je te dis, potentiellement, tu le mets en doute, tu vois? C'est vachement plus complexe que si tu me disais, tiens, en fait, je te donne 100 et puis après, je t'enlève si vraiment tu déconnes, quoi. Et c'était très intéressant parce que je crois que c'était vraiment la première personne avec qui je travaillais aussi proche et qui fonctionnait comme ça. Et moi, ça m'a mis en pas mal de difficultés parce que comme je fonctionne complètement à l'inverse...
Toi, tu donnes 100 ?
Ah, moi, je donne 100, voire même 150, en fait. Ouais. En revanche, je t'enlève tout de suite, très vite.
Ouais.
Si tu déconnes, c'est pas... ah non, bah tiens, je vais t'enlever 1%. Non, c'est juste... ok, frère, en fonction de ce que tu as fait, ça dégage. 10, 20, 30. En fait, je ne vais pas non plus dégager la personne de ma vie, mais c'est juste... en revanche, vraiment, je te regarde avec méfiance la prochaine fois. Mais ouais, de base, moi, comme tu dis, je suis un Bambi. Ouais. Moi, je suis vraiment un bisounours. Je suis là, pour moi, la meilleure façon de fonctionner en tant qu'humain, c'est de se faire totalement confiance. Et après, bah, ça m'a valu quelques déceptions humaines, tu vois, de me dire « Ah, ça vient effectivement complètement... » mettre un coup de couteau dans mon cœur de bisounours, mais c'est comme ça aussi que t'apprends, quoi. Mais en revanche, je ne change pas de façon de fonctionner. Je fais juste plus gaffe et je file moins vite ma confiance à 100% aux gens, mais en revanche, je la file, quoi, tout de suite.
C'est marrant parce que je l'avais jamais conscientisé, ce pourcentage et combien tu donnes au début et tout, mais ouais.
C'est trop intéressant.
Je vais la poser à plein de genre maintenant cette question, ou je vais me poser la question quand je vais rencontrer quelqu'un. Donc comment cette personne fonctionne en termes de pourcentage?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Très intéressant.
Et de moments où tu les donnes.
Et de moments où tu les perds.
Et où tu les perds.
Mmh. Donc ouais, toi tu te lances à ce moment-là.
Ouais.
Est-ce que tu peux peut-être, c'est peut-être le moment d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les gens qui ne connaissent pas le milieu de l'édition. C'est-à-dire que toi tu rends ton texte et après...
Ouais, alors il y a plein d'étapes avant ça, c'est-à-dire que tu le rends une première fois, puis après t'as une correctrice qui passe orthographique, puis tu valides, puis une deuxième fois, puis t'as le droit à une dernière relecture, puis t'as une relecture une fois que le texte est mis en page
comme, sous forme de livre,
comme un PDF, et après je crois que t'as même les épreuves non corrigées mais qui sont imprimées sur des petits livres,
ouais.
Un peu... en carton, quoi, pas un vrai livre, mais qui a le format d'un livre que tu peux relire. Donc, il y a quand même plein d'étapes de relecture. C'est pas t'envoies un Word en mode « Ok, c'est fini pour toujours ». Donc, il y a quand même plusieurs étapes, mais il y a quand même un moment où c'est fini pour toujours. Et là tu lâches. Et ouais.
Vous voyez pas les yeux de nous, mais souviens.
Ouais, ben, c'était le premier aussi, donc tu connais pas bien toutes les étapes, tu sais pas exactement ce qui va se passer, etc. Pour le deuxième, ça sera forcément différent. Mais ouais, tu dois faire confiance à une équipe et toi, tu as mis tellement toute ton âme, tout ton être, tout, que chaque micro-erreur, au début, je l'ai vécu comme un pas en enfer. J'ai un exemple bête. J'ai une amie qui m'envoie pendant l'été, avant la sortie, une photo du magazine, je crois, de France Loisirs, leur catalogue. Et donc, il y avait le résumé de mon livre dans le catalogue des livres de l'été, ou je ne sais pas quoi bien, ou dans des livres de la rentrée. Et en fait, donc, il y avait une photo de mon livre, et en descriptif, il y avait le texte du livre de Cécile Coulon et pas du mien. Donc, il y avait écrit « Dans une demeure », etc. Mais aujourd'hui, ça m'arriverait. Juste, je trouve ça très drôle. Je fais une story sur Insta en mode « Bon, j'ai un peu copié » et je l'avais envoyé à Cécile qui, elle, m'avait répondu « Haha, bah, je vois bien où tu trouves ton inspi. Merci d'avoir copié. » Un truc rigolo, tu vois.
Cécile Coulon, qui est une autrice aussi aux éditions
L'Iconoclaste. Et en fait, nos deux livres sont sortis au même moment. Et d'où la petite confusion dans le catalogue où, en fait, ils avaient dû recevoir nos trois résumés. Bref, et changer, enfin bon, se tromper. Mais maintenant, ça me paraît tellement anodin. On s'en fiche, c'est pas ça qui fait le destin d'un livre, vraiment. Mais sur le coup, j'étais tellement pas bien, je fais... Oh! Parce que évidemment, à ce moment-là, tout le monde t'envoie ce genre de truc. Toutes les erreurs, tout le truc, tout... on en reparlera après, mais « Ah, mais ton livre, il est pas dispo là. Ah, mais ton livre, en fait, il est pas arrivé en Belgique. Mais en fait, il est pas dispo en Suisse. Mais en fait, si, mais en fait, ça. Mais en fait, il marche pas, il est pas bien référencé là récemment. Ah, mais il est pas bien référencé sur Amazon. Donc, en fait, on peut pas l'acheter sur Amazon. » Donc, évidemment, on t'envoie toutes ces choses-là, qui est très sympa. Et sur le coup, j'étais genre, oh, mais ils se sont trompés, mais attends, mais tous les gens qui ont le magazine France Loisirs, du coup, ne verront pas le descriptif de mon texte, et donc ils n'auront pas envie de le lire, et donc tout s'effondre. Et là, t'en veux un peu à la terre entière, tu dis, et tu ne sais même pas qui en vouloir, parce que tu ne sais pas du tout si c'est une erreur de l'iconoclaste, ou une erreur de la maquettiste, ou du maquetteur, je ne sais pas comment on dit, du maquettiste homme. Maquetteur. Maquettiste quand même, du maquettiste de France Loisirs, enfin, en fait, t'en sais rien. Mais donc, il y a quand même ce côté où il faut le lâcher. Et maintenant, ça paraît un peu dérisoire. Mais au début, t'as envie que tout soit parfait. Parce que moi, j'ai tellement mis tout mon cœur, toute mon énergie pour que tout soit parfait dans mon texte. Comment quelqu'un peut se tromper sur le magazine de France Loisirs ? J'ai envie de vous dire. Je pose la question, qui a le droit ?
Qui a le droit de faire ça ?
Qui a le droit de faire ça à mon roman ? Et toi, est-ce que t'avais... Parce que là, vraiment, je vois les parallèles avec toi qui crée Mademoiselle. Comment... Tu as mis tout ton cœur pour que ça soit parfait, pour que ça soit toi. Tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout. Puis à un moment, il va falloir que tu lâches et que tu fasses confiance aux autres avec ton bébé.
Mais il y a moins de travail personnel. C'est-à-dire que. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que.
Bah,
non,
tu vois pas. Tu as quand même beaucoup travaillé pendant des années.
Oui. Ah, tu veux dire maintenant que j'ai vendu ou non, pas du tout.
Bah non, quand tu l'as créé.
Mais quand je l'ai créé, en fait, pour moi, je mets beaucoup d'énergie dedans. Mais en fait, il y a un moment donné où très vite. Il y a des gens qui viennent travailler dedans, très très vite.
Oui, c'est vrai.
Et qui viennent y apporter leurs pattes. Et qui viennent challenger mes idées ou les choses qu'elles viennent m'amener. Moi, je les challenge aussi. Donc, il y avait un vrai aspect de co-création très très rapide. Une fois que la phase de conception, machin, elle est terminée, et qu'en fait le site il est live, bah, en fait après, il faut le faire vivre. Donc, et ça, c'est du quotidien. Donc, parfois, tu vois, on a moins le temps au quotidien de se rendre compte. Parfois, on fait des erreurs, tu vois, et on s'en rend pas compte sur le moment. On s'en rend compte le lendemain ou le surlendemain parce qu'on voit qu'il y a eu des commentaires négatifs, etc. Mais finalement aussi, on co-crée énormément le magazine avec ses lectrices. En tout cas, moi, j'ai beaucoup co-créé Mademoiselle avec ses lectrices dans tout ce qu'elles ont pu apporter de feedback positif, de feedback négatif. Comme je le disais dans l'épisode précédent, parfois, je prenais juste ce qui m'intéressait. Parfois, il y avait des trucs trop intéressants où je me disais, tiens, en fait, ça, c'est trop intéressant. Je l'avais pas perçu comme ça. Let's go. Il y avait d'autres feedbacks où je me disais, OK, ça, je l'ai vu. Ça m'intéresse pas. Mais ouais, il y a eu tout de suite un aspect très, très co-créant ensemble. Après, pour l'aspect délégation, c'est venu beaucoup plus tard parce que quand j'ai commencé à déléguer la rédaction en chef, tu vois. Et ça, pour moi, c'est venu, mais 10 piges plus tard. Un peu plus tôt parce que je déléguais beaucoup de choses à Mimi qui était la secrétaire de rédac à l'époque. Elle n'était pas encore tout à fait rédac chef adjointe. Et comme elle se démerdait super bien, je la laissais faire plein de trucs. En toute confiance. Mais ouais, ça fait partie des choses que j'ai... Et tu vois, notamment, je parlais de la directrice commerciale. Moi, j'avais une idée en tête de la façon dont on devait vendre Mademoiselle, etc. C'était trop intéressant de voir la création de ce projet-là dans le projet, parce que c'était essentiel de réussir à vendre Mademoiselle, en tout cas de vendre de la publicité sur Mademoiselle. Et Christelle, elle arrivait avec son feedback de 10 ans de travail chez Au Féminin, etc. Donc on a dû se phaser énormément parce que on n'avait pas forcément le même langage, on n'avait pas forcément la même façon de parler. Et pour moi, c'était hyper important de la mettre à la culture, tu vois, de Mademoiselle. Et il y avait plein de choses dans lesquelles, au départ, elle était décalée. D'ailleurs, on se marre encore de temps en temps parce que elle pouvait dire des trucs parfois qui étaient complètement à la ramasse par rapport à ce que moi, la façon dont moi je voulais parler de l'électrice. Et surtout, tu vois, il y avait des mots-clés qu'elle utilisait, marketing et tout, avec lesquels j'avais parfois du mal. Mais je me suis
rendu... Par exemple, c'était quoi?
Ben, en fait, elle, son job, c'était de vendre le site. Et c'est de vendre l'audience à des agences de pub et à des agences de com. Et donc, elle utilisait plein de mots-clés où, tu vois, elle venait dire que l'électrice de Mademoiselle, elles étaient très authentiques, tu vois. Et bon, je parle de ça, c'était en 2014, hein, tu vois. Et pour moi, j'étais là, mais en fait, ça veut rien dire authentique.
Authentique.
Authentique. Elles ont authentique. Mais elle disait, non, mais il faut que tu te rendes compte que... Il n'y a pas beaucoup de médias féminins qui vont dire de leurs lectrices qu'elles sont authentiques. C'est plutôt, elles vont parler de CSP, etc. Donc, tu vois, avec le temps, on avait fini par faire parler des lectrices. On avait fait une petite vidéo, en fait, où on faisait parler des lectrices du média. On leur demandait un peu ce qu'elles en pensaient, etc. Et on avait fait une version de 1 minute 30, ce qui permettait de donner tout de suite avec des mots, voilà quoi elle ressemble, en fait, lectrice de Mad. Parce que l'air de rien, elle ressemblait quand même pas à toutes les autres lectrices des magazines féminins. Et c'était hyper important, tu vois. Donc moi, j'avais à la fois cette vision de, il faut qu'on arrive à nous distinguer sur le marché commercial, tout comme on l'a fait dans le média, par rapport au lectorat. Et elle venait avec sa vision, beaucoup plus marketing. On a dû, je crois, trouver un point au milieu. C'était hyper intéressant à vivre et à faire, en fait, tu vois, tous les deux. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça te laisse perplexe?
Non, c'est vrai que non, ça me laisse songeuse parce qu'effectivement, toi, depuis le début, tu n'avais pas le choix. Enfin, c'est pas que tu n'avais pas le choix. Depuis le début, c'était collectif.
Oui.
C'était « je veux monter une équipe de foot ».
Oui.
Depuis le début, tu pouvais pas être tout seul.
J'ai
dans l'essence même du projet, c'était que ça soit un projet collectif, alors que c'est vrai que là, nos chemins se séparent malheureusement. L'écriture reste d'abord un projet personnel.
Bien sûr.
Et authentique d'ailleurs. Et ensuite tu passes dans l'équipe.
Oui. Effectivement, sans doute que le saut de passer de... Ok, mon fichier Word pendant des heures toute seule devant mon ordinateur à ça y est, c'est le grand moment où il faut. J'imagine que tu allais pitcher ton bouquin à des représentants commerciaux, etc.
Ouais.
Tout ça, enfin, je l'ai fait parce que j'ai moi-même sorti un livre il y a quelques années, n'est-ce pas? Et c'était vraiment une expérience intéressante. Hein.
c'est une expérience intéressante. Et c'est vrai que ça fait appel à plein de compétences très différentes. Et je pense que c'est la même chose quand tu crées ta boîte, ça fait appel à tellement de choses de toi. Derrière le côté entrepreneurial, par exemple, en fait, c'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu la même chose parfois, j'y pense, avec le fait d'écrire, où il y a la partie écriture qui est le nerf de la guerre, le cœur du bazar. Et en même temps, ensuite, il va falloir aller faire la promo, pitcher ton livre, être convaincant, le vendre, etc. Mais ça sera peut-être les futurs épisodes.
C'est pour l'épisode d'après,
mais,
je crois.
Voilà. Mais c'est vrai que tu arrives dans une équipe. Tu arrives dans une équipe et tu, avec d'autres compétences, tu dois faire confiance à d'autres personnes que toi. Et un peu lâcher l'affaire aussi sur des détails. Genre sur France Loisirs, mais aussi sur plein de petites choses. Et je vais te raconter une anecdote que j'avais mis dans notre petit fichier sur cet épisode, dans les petites choses dont on voulait parler. C'est donc quand le livre est sorti fin août, peut-être 2-3 semaines plus tard, il était indisponible partout parce que tous les livres avaient été vendus.
Incroyable.
Et donc il était en cours de réimpression, grosse sévère réimpression. Et donc j'appelle la directrice de la maison.
Combien de gens ont lu ton bouquin? Combien d'exemplaires?
Maintenant 100 000.
Excusez-moi. Mic drop, allez, terminé.
Et à l'époque, je sais même pas combien d'exemplaires il était tiré, peut-être 10 000, je dirais, je sais
ce
même pas.
Ce qui est déjà énorme pour un premier.
Ouais, ce qui était déjà pas mal, 8000 peut-être. Je sais plus, je sais même pas. Oh, c'est la honte.
Mais en attendant, c'est une énorme nouvelle. C'est une super bonne nouvelle.
Et donc voilà, exactement ce que me répond la directrice de la maison, Sophie, qui me dit mais c'est génial, Maud. C'est un, je cite, excellent signal. Ça envoie un signal que bah, ça fonctionne. Et puis elle me disait aussi très justement on pouvait pas non plus en imprimer 50 000 avant la sortie. Donc de toute manière.
Oui.
Déjà, c'est un problème de riche que t'en aies vendu autant en deux semaines. Personne n'aurait pu prédire ça. Elle m'a dit, même dans les prédictions les plus optimistes, ça n'existe pas. Donc en fait, je ne pouvais pas, on n'aurait pas pu mieux faire. Et de toute manière, c'est pas grave. Regarde, on est en train de le réimprimer en tant d'exemplaires. Il va finir par être redisponible. Tous les libraires ont refait leur stock. Voilà, tout va bien se passer, c'est super. Mais là, je peux te dire que t'as quand même un peu le frisson de est-ce qu'ils sont pas en train de faire n'importe quoi ? Enfin, tu te dis, et là, évidemment, Instagram, tous les gens très gentiment qui envoient des messages en disant « Oh, j'avais trop envie de lire ton livre et je suis allée en librairie. » Et le libraire a dit « Bah non, il n'est pas dispo. » Et j'ai « Ah, vous avez pu le commander. »« Ah non, il ne pourrait pas de commande parce que vu qu'il est en rupture totale, tu peux même pas passer commande. » Et une copine qui m'envoie un message en mode « Ah, mais c'est ouf, je rentre dans une librairie, je suis en train de regarder des livres. » Et il y a quelqu'un qui rentre en mode « Vous avez le livre Mon mari, ils en ont parlé au Masque à plumes hier. » Et le libraire « Ah non, on l'a pas, non, on l'a plus, machin. »« Ah bon, ok, merci, au revoir. » C'est fou, hein, cette coïncidence d'avoir été là au même moment. Et je te jure, donc moi, je retiens pas l'anecdote que quelqu'un demande mon livre, ce qui est déjà incroyable
c'est
en soi.
Énorme.
Je retiens l'anecdote de « Ah, donc les gens rentrent dans la librairie, demandent mon livre et les libraires... » prennent même pas leurs commandes et bref. Ouais. Et donc, bon, bah, problème de riche, hein. Problème d'un livre qui fonctionne très bien, mais n'empêche...
J'ai une question. Est-ce que t'as vu des gens lire ton livre ?
Jamais. Bon, elle est une fois dans le train, mais j'allais à un festival... Ça compte pas. J'allais à un festival... Non, parce que j'allais à un festival littéraire où j'étais invitée et où donc il y avait plein de gens du milieu, donc non. Mais je reçois pas mal de photos en ce moment sur Insta de gens qui voient dans le métro notamment, des gens lire mon livre, et moi j'ai jamais vu de mes yeux quelqu'un dans le métro lire mon livre. Donc ça c'est un grand regret, mais je sais que ça arrivera,
ça viendra. Statistiquement c'est obligé
que ça arrive. Je reçois les petites photos là dans le métro, je trouve ça fou, je vois. Et en général bah, la tête de la personne est coupée, donc je vois juste des mains et un sac et quelqu'un qui est en train de lire, et je trouve ça dingue. Mais voilà, pour revenir à ce problème d'impression, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai discuté avec Cécile Coulon, qui est une autrice de ma maison d'édition qui a de la bouteille et qui m'a rassurée, d'où on en revient à notre épisode aussi sur les conseils et savoir demander de l'aide. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que l'icono a fait n'importe quoi ? Est-ce que je devrais paniquer ? Et elle m'a dit, non, l'icono n'a absolument pas fait n'importe quoi. C'est vraiment bon signe. T'as un livre épuisé au bout de deux semaines, juste... Bravo, sort le champagne, point.
Oui.
Et elle m'a dit aussi, c'est un peu dramatique quand ça arrive juste avant Noël, parce que là, c'est des ventes qui seront perdues pour toujours. Quand t'as un livre indisponible le 20 décembre, je peux dire que tu pleures des larmes de sang, peut-être pas, mais voilà. Et elle m'a dit, là, franchement, le 2 septembre, non, tout va bien, vraiment, je te jure, ça va. Et donc, ça m'avait rassurée. Mais il y a le côté un peu, ouais, t'y as mis tout ton cœur. Et t'espères que autour tout roule. Et de fait, en fait, ma maison d'édition avait assuré et avait tout bien fait. Mais sur le coup, bah, t'as un peu peur. Enfin, ouais, faut faire confiance à d'autres personnes que toi-même.
Ouais. T'avais noté aussi autre chose. T'avais peur qu'on te déteste, c'est ça ?
Ah ouais, de ouf. Ouais, j'ai noté ça, j'adore. Ben, en fait, il y a le côté.
D'être
aussi...
la relou de service, t'as mis.
Ouais. Exactement, bah tout à fait. Bah quand t'arrives dans ta maison d'édition, c'est un peu comme quand t'arrives dans un nouveau travail où tu travailles tout seul sur ton texte. Puis ensuite on te présente à l'équipe et donc tu vas travailler en équipe avec une responsable des rencontres en librairie, une responsable des festivals, une responsable commerciale. Tu travailles avec plein de gens, une attachée de presse, une responsable des réseaux sociaux. Donc tu travailles avec une équipe hyper complète. Et donc, t'es à la fois, t'y as mis tellement tout ton cœur que tu veux que tout soit parfait et que tu veux tout bien faire. Et en même temps, bah, tu veux pas être la relou de service. Tu te dis, mais en fait, je vais être insupportable à dire, mais vous êtes sûr là pour l'affichage. Bah, l'exemple que je prenais tout à l'heure pour le métro. Alors, vous dites le grand amour de votre été, mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt l'amour de vacances? Parce que le grand amour, c'est pas l'amour de l'été. Et tu te dis, mais ils vont dire, cette scie est insupportable. Et en même temps, bah, tu peux pas trop t'en empêcher parce que bah, tu restes l'auteur. Dans le sens premier du terme, l'autrice à bord, quoi. Et donc, tu dis, bah, évidemment que j'ai un rôle à jouer et que je suis pas figurante. Et en même temps, tu veux quand même laisser tout le monde faire son travail bien et pas venir les embêter alors, sur leur truc. Et voilà, notamment sur l'histoire des impressions des livres, quoi. J'aurais pas appelé toutes les heures la responsable commerciale en disant « Et là, il y a combien d'exemplaires qui a été réimprimé ? Et là, et là, et là ?» Enfin, au bout d'un moment, elle m'aurait dit « Va te faire un sandwich, quoi. Détends-toi. Enfin, laisse-moi faire mon travail. »
Surtout, sors le champagne.
Oui, et surtout, sors le champagne.
Parce que ça reste une énorme victoire.
Ouais, mais à ce moment-là, je pouvais pas l'entendre, ça. Bah non, mais c'est vrai.
C'est important de célébrer les victoires. On en parlait tout à l'heure.
Oui.
C'est important de savoir célébrer les victoires.
Et ça sera l'objet de notre dernier épisode, je crois. Mais, mais oui. Mais à l'époque, je vois pas ça. Moi, je vois les messages de personnes qui me disent « Oh, j'aurais trop aimé le lire. Dommage, il est pas du tout dispo. Allez, bonne journée. » Et moi, genre, bah, j'espère que vous arriverez à le trouver un jour.
A priori, ces gens l'ont trouvé.
Et toi, alors, t'étais le relou de service ? Parce que dans ce dont tu parlais de prendre ton rôle de patron, il y a aussi un peu de ça. La fois, c'est ta vision, c'est ton bébé et tu vas être pointilleux, exigeant. Et à la fois, tu as peut-être peur que tout le monde te déteste et d'être le relou de service.
Écoute, ça a été un chemin d'accepter que tout le monde me déteste au nom de le projet est plus grand.
Ouais.
Le projet est plus grand que tout le reste. Et je m'incluais dedans. Hein, c'est-à-dire que moi, je partais du principe que Mademoiselle était plus grand que chacun d'entre nous et que, en fait, Mademoiselle perdurerait après les gens qui y passeraient dedans, tu vois. Et peu importe, comment dire, je me rends pas compte aujourd'hui à quel point c'est ok ou pas avec l'idée que j'avais de ma boîte, tu vois. Mais pour moi, c'était un truc un peu fondateur, tu vois, et fondamental dans la boîte. Je crois pas que je le conscientiser autant à l'époque, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte plus tôt les dernières années, et notamment quand j'ai décidé moi-même de quitter la boîte parce que je considérais que j'avais fait le tour et que, enfin tu vois, je me suis mis à la même finalement à la même hauteur que tout le monde en fait. C'était juste bon bah je suis plus viable et je suis plus à la hauteur par rapport à l'idée que j'ai de ce qu'il faut que le projet soit. Il faut que je le quitte. Mais ouais, ça a été un vrai, vrai chemin d'apprendre à faire le relou, d'apprendre à donner des feedbacks qui étaient parfois pas forcément positifs, ou en tout cas qui étaient toujours en mode « Ok, il faut s'améliorer », mais parfois, faut aussi appeler un chat, quoi, tu vois. Et parfois, quand il y a quelqu'un qui fait un truc pas bien ou qu'il n'est pas à la hauteur d'un truc, juste lui dire « Bah là, tu vois, en fait, c'est pas à la hauteur par rapport à l'idée que j'en ai et par rapport à l'idée que je veux que Mademoiselle existe, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est parfois compliqué.
Et je trouve ça aussi un peu risqué de dire le projet au-dessus de tout. Ça fait un peu peur. Parce qu'il y a le côté, si moi je disais ok, mon premier roman, il est au-dessus de tout, est-ce que ça ne m'ouvre pas la porte à plein de choses ? À demander des choses indemandables aux membres de l'équipe de ma maison d'édition ? À dire, au nom de mon livre, tu vas refaire ce truc 15 fois, tu vas après les François Asie, on va réimprimer le magazine. Enfin, des choses qui maintenant me paraissent en fait absolument bêtes et c'était vraiment pas le nerf de la guerre.
Mais oui, c'était une.
Quand t'es porté par un truc, ouais, t'as envie de dire c'est tellement plus important de tout et en même temps les autres te disent pas du tout. Pas du tout.
Mais c'est clair que c'était une vision assez toxique finalement de ce projet et qui représentait aussi l'investissement que j'y mettais dedans. C'est-à-dire que pour moi, c'était tellement important. Et c'était pas important parce que juste c'était ma boîte. C'était important parce que pour moi, Mademoiselle faisait du bien à la société. Et en fait, je sais aujourd'hui avec le recul que égotiquement, il y avait aussi « c'est moi qui fais du bien ». Donc ça, je suis assez à l'aise avec ça. À l'époque, j'en avais moins conscience. Mais ouais, il y avait un vrai truc de. Je sais aujourd'hui qu'il y avait un environnement. Enfin, c'est pas toxique en fait, mais je sais que cette idée que j'avais de Mademoiselle est plus important que tout, ça pouvait créer un truc qui était parfois compliqué à gérer, quoi. Aussi bien pour moi que pour les membres de l'équipe, hein. Je le sais. C'est pas facile.
Non.
Et en même temps, c'est mon chemin.
Mais oui, c'est le chemin. Mais ouais, c'est beau, ces grands projets. Et la question, quand c'est un projet perso, quand c'est une idée intime, quand on en revient au premier épisode, comment t'intègres dans ta barque d'autres gens dans ton projet ? sans les noyer avec ta vision et en même temps en en faisant un truc collectif. Enfin bref, il y a tout un, il y a quand même un petit exercice d'équilibriste à devenir, à grossir et à impliquer des gens dans son projet. Et si j'en reviens à, toujours à cette personne fictive dont le rêve c'est d'ouvrir un café-librairie par exemple, bah, le jour où tu ouvres ton café-librairie et où c'est plus juste toi, ton idée, ton projet, mais les trois personnes que tu embauches, ben, ta vision, il faut la partager avec des gens, il faut les impliquer dans ta vision. En même temps, c'est pas leur projet de vie peut-être, hein, c'est juste peut-être un taf salarié.
Ça, clairement.
Et donc, vous êtes peut-être tout à fait alignés, toi, c'est peut-être ce qui te fait te lever le matin depuis 3 ans, alors que eux, peut-être pas. C'est peut-être un taf salarié comme un autre et c'est très bien comme ça. Donc, il y a voilà, quand tu commences à embaucher dans ton café, il y a une petite manœuvre à faire.
Tu m'étonnes.
Il y a un petit virage.
La semaine prochaine, on vous parle de c'est quand le succès.
Aha.
On va parler de le succès, quoi.
Le succès.
Tout simplement. RDV jeudi prochain, 6h du mat.
Jeudi prochain.
Même jour, même heure. On espère que vous passez de belles vacances et un bel été. Des bisous.
Bisous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.